de la sagesse. Une émission proposée par Michel Théron.
Eh bien, bonjour Michel.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous.
Michel Théron, nous continuons tranquillement à lire votre livre publié aux éditions BOD sur les chemins de la sagesse. Alors nous en étions à la question du vrai soi, une question que vous avez définie, explicitée, à laquelle vous avez répondu lors de nos émissions précédentes. Et nous arrivons à la fin de ce chapitre que vous concluez magnifiquement en disant ceci. Dans une dispute, que ce soit en couple ou dans une autre situation, le plus intelligent est celui qui fait la paix en premier. C'est lui qui s'est élevé le plus haut. Alors nous allons y revenir. Peut-être vous avez envie de revenir un peu sur une synthèse de la question du vrai soi,
voilà,
avant de répondre à cette question spécifique.
Ce vrai soi, c'est le fait d'acquérir une hauteur suffisante où l'on essaie de voir l'ensemble des tenants et aboutissants d'une situation. Il ne s'agit pas d'un petit ego narcissique qu'il faudrait écouter, mais au contraire d'une élévation vers la vision synoptique, comme on dit synopticos ou dialecticos. Le dialecticien est celui qui voit la totalité, disait Platon, je pense. Donc une vision globale. J'avais pris la métaphore suivante. Quand nous gravissons dans l'obscurité l'escalier en colimaçon d'une vieille tour féodale, par exemple la tour Carbonnière à Aigues-Mortes, nous ne savons pas où nous allons et seulement nous avons pour nous accompagner les jets de lumière fugitifs qui passent à travers les meurtrières. Mais enfin, au bout de notre ascension, quand nous débouchons sur la plateforme du sommet, tout le panorama se dévoile sous nos yeux de façon nette et éblouissante.
Cela veut dire qu'on ne peut voir les belles choses que lorsqu'on a fait un pas de côté, un pas de plus, un pas plus haut.
Quand on s'est élevé. À la fois, il y a une modestie et il y a une ambition. La modestie, c'est résilier le petit ego, le petit moi égocentré et narcissique, et aussi une ambition qui est justement de généraliser sa vision.
Et c'est une générosité aussi.
Absolument.
Générosité est vraiment, vraiment même. Alors là, un exemple de sagesse.
Absolument.
Reconnaître cela, c'est...
Voilà, arriver justement à essayer d'entrer dans les raisons de l'autre. Alors c'est là, Guylaine, que votre citation intervient. Prenons le cas des amants ou des, d'un couple qui se dispute. Eh bien, il me semble que celui qui fait la paix le premier est celui qui s'est élevé le plus haut. Et nous allons écouter pour illustrer cela une très belle chanson de Léo Ferré qui s'appelle « Écoutez la chanson bien douce » mais qui est inspirée d'un poème de Verlaine.
Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fut connue et chère, mais à présent elle est voilée comme une veuve désolée, pourtant comme elle est encore fière. Et dans les longs plis de son voile qui palpite aux brises d'automne, cache et montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle dit l'avoir reconnue, que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste, la mort venue. Elle parle aussi de la gloire d'être simple sans plus attendre, et de noces d'or et du tendre bonheur d'une paix sans victoire. Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épite à l'âme. Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. Elle est en peine et de passage, l'âme qui souffre sans colère, et comme sa morale l'éclaire, écoutez la chanson bien sage. Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse.
Bien, c'était Léo Ferré qui interprétait cette poésie, ce poème de Verlaine, écoutez la chanson bien douce que l'on trouve, Michel Théron, dans les dernières pages de votre livre sur les chemins de la sagesse. Vous avez choisi cette poésie, Michel, pour illustrer cette question d'élévation de la personne jusqu'à la compréhension de l'autre et jusqu'à oublier notre petit égo.
Absolument. Alors à la fin du livre, donc j'ai fait une mini-anthologie poétique, justement, des thèmes que j'ai traités de façon conceptuelle et professorale dans le corps du livre, hein, de façon à faire un contrepoint sensible, si vous voulez. Hein. Et cette chanson qui est magnifique, elle est tirée justement d'un poème, d'un recueil de Verlaine qui s'appelle « Sagesse ». Hein. Donc nous sommes tout à fait dans notre sujet. Hein. Donc voici, écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère. Un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fut connue et chère, mais à présent elle est voilée, comme une veuve désolée, pourtant comme elle est encore fière, et dans les longs plis de son voile qui palpite aux brises d'automne, cache et montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle dit l'avoir reconnue que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste, la mort venue. Elle parle aussi de la gloire, d'être simple et sans plus attendre, et de noces d'or et du tendre bonheur d'une paix sans victoire. Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épithalame. Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. Elle est en peine et de passage, l'âme qui souffre sans colère, et comme sa morale est claire, écoutez la chanson bien sage. Il n'y a rien de plus beau que cela, je trouve, hein. Rien de plus profond, rien de plus signe d'une grande maturité. Lorsque nous nous disputons, nous devrions nous demander, au bout du compte, nous, de toute façon, nous mourrons tous les deux, hein, si nous disputons dans un couple. Hein. Elle dit l'avoir reconnu que la bonté, c'est notre vie, que de la haine et de l'envie, rien ne reste, la mort venue. Hein. Donc, sachant faire la paix. Il ne faudrait pas s'endormir le soir sans avoir fait la paix si l'on s'est disputé pendant la journée. Je crois que ça serait une bonne solution, une bonne façon d'être. Hein. Ne pas s'endormir dans les récriminations, les reproches. Il faut avoir auparavant discuté.
Alors, Paul Verlaine était un sage.
Ah oui, c'était un sage. Alors figurez-vous, Guylaine, ce qui est amusant, c'est que dans ce grand manuel très connu de littérature qui sert aux lycéens, le manuel de Lagarde et Michard, ces deux inspecteurs généraux de l'université qui devraient être les évêques de l'université, on a la phrase suivante, parce que le poème de Verlaine est destiné à fléchir Mathilde Mottet, avec lequel il s'est fâché. Alors la note, c'est « Verlaine semble un peu oublier la gravité de ses torts hein. ». Eh bien, moi, je trouve ça absurde. Hein. Où est-ce que l'on va quand ces inspecteurs généraux, je répète, ces évêques de l'université, disent « Oh, vous savez, la littérature, on en prend et on en laisse. Hein. Bon, regardons la vie, c'est plus important. » Non, il faut prendre les textes, et ça, quand j'étais professeur en activité, je l'ai toujours insisté là-dessus, les prendre littéralement, hein, vraiment. Hein. Ce qu'il en a été de la rupture de Verlaine et de Mathilde Mottet, de l'escapade de Verlaine avec Rimbaud, bon, ça n'a rien à voir. Hein. Le texte est là, avec toute sa grandeur, sa profondeur. Les torts de Verlaine vis-à-vis de Mathilde, on s'en moque, hein. Mais Lagarde et Michard, ils sont toujours coutumiers de ce fait. Ils aplatissent tout, hein. Ils ne respectent pas véritablement le texte. Donc, il me semble, je pense que vous acquiescez, Guylaine, que l'attitude de prendre, consistant à prendre de la hauteur, hein, caractérise bien ce soi, avec un S majuscule, le soi jungien, hein, que l'on trouve naturellement au fond de soi quand on réfléchit seulement et quand on élargit sa vision. Hein. Je pense que on peut conclure ce chapitre sur le vrai soi, hein, de cette façon, sachant d'entrer dans les raisons de l'autre. Alors maintenant, on peut passer au chapitre suivant.
Le septième chapitre de votre livre, Michel Théron, s'intitule « Le masque ». Alors, qu'est-ce que le masque ?
Alors, je suis parti de l'idée que nous portons tous un masque sur notre figure. Quand je vous parle, Guylaine, j'ai un masque. Non. Et vous aussi, quand vous me répondez, j'ai un masque.
Mais quand même, il ne faut pas qu'il soit trop...
Il ne faut pas qu'il dissimule trop la personnalité.
Voilà, pas trop dissimulateur.
Nous portons tous, c'est inévitable, un masque sur notre figure dans nos relations avec les autres. Nous sommes des acteurs dans une pièce de théâtre. Quel est le metteur en scène de cette pièce? On ne sait pas. C'est la société, de toute façon, qui impose ce masque. Hein. Est-ce que nous sommes nous-mêmes les propres acteurs, justement? Est-ce que nous avons décrété quel serait le scénario? Je ne sais pas. Parfois, c'est les deux, la société et nous-mêmes.
Hein. Quand est-ce qu'on pose ce masque? Vous allez peut-être y
répondre
plus tard.
Oui,
hein.
Je le dis on peut le poser, mais au départ, il est inévitable. Et notre personnalité sociale, c'est une phrase de Proust, c'est une création de la pensée des autres. Nous avons fait une émission sur le regard des autres. Le regard des autres nous constitue, hein, et nous nous conformons à ce que nous présumons être l'attente des autres. Hein. Sartre, dans L'être et le néant, nous dit que le garçon de café joue à être un garçon de café. Hein. Il joue un rôle. Hein. C'est une représentation. Tout est question de distribution, ou comme on dit aujourd'hui, de casting. Hein, de casting. Alors ce mot de personnalité sociale, vient du mot latin persona. Alors, qu'est-ce que ça veut dire persona? C'est le masque de l'acteur. Dans le théâtre antique, aussi bien en Grèce qu'à Rome, les acteurs portaient des masques. Hein. Bon, on a eu cela après dans la comédie italienne classique. Hein. Et alors, ce masque, nous le portons depuis notre enfance. L'éducation, c'est l'imposition faite à un individu unique, qui est irréductible à tout autre, d'un masque social totalement aléatoire et étranger. Il n'a rien à voir avec ce que nous sommes vraiment au fond de nous-mêmes. Mais il colle à nous, et il colle si souvent à nous, à notre peau, que nous pouvons finir par nous identifier à ce masque. Et beaucoup ne se voient que dans le prisme de leur rôle ou de leur profession sociale. Hein. Est-ce qu'ils sont vraiment les agents de leur propre vie? On peut en douter. Hein. Par exemple, si on pose à quelqu'un la question « Que faites-vous dans la vie ?» Eh bien, manifestement, cette question vise le métier que l'on exerce. Hein. Bon, non pas ce que l'on est, au fond de soi-même, mais le métier que l'on exerce. Notre situation sociale, la profession, le rôle social que nous incarnons. Il ne vient à l'idée de personne de prendre le mot « faire » dans « Que faites-vous dans la vie ?» dans un tout autre sens que cela. Hein. Mais alors, ce rôle social ne correspond pas seulement à la profession, mais il touche tous les aspects de la personne. Alors, il correspond à ce que Freud appelait le surmoi ou l'idéal du moi. C'est un système de valeurs qui transcende l'individu, qui est transmis par l'éducation. Hein, pour exprimer ce surmoi, qui est un terme abstrait, Jung, lui, a un mot beaucoup plus concret, beaucoup plus sensible et donc littéraire, c'est pour ça que je le préfère, c'est le mot de persona, hein, qui veut dire le masque, le masque que nous portons. Alors, dans toutes les sociétés, il y a un système de valeurs imposé, un surmoi ou un masque. En Inde, par exemple, cela s'appelle le dharma, D-H-A-R-M-A, hein, c'est-à-dire à ne pas confondre avec le karma. Hein. Bon, le karma, c'est autre chose, nous portons les conséquences de nos actions. Hein. Bon, le dharma, c'est le rôle social, une obligation à laquelle on ne peut se soustraire. Alors là, j'en viens à votre objection, Guylaine. Est-ce que porter un masque est nécessaire Alors, je pense que oui, quand même, pour éviter de régresser à l'instinct pur. Hein. On modèle l'enfant, par exemple, pour qu'il devienne obéissant, d'abord vis-à-vis de ses parents, ensuite vis-à-vis de ses maîtres à l'école, hein, et l'enfant portera le masque de l'élève. Mais si par hasard il ne le portait plus, alors comme, je répète, dans certaines classes de certains collèges aujourd'hui, hein, où au nom de la spontanéité, le maître même peut favoriser l'abandon de ce masque, le résultat peut être catastrophique. Je ne sais pas si vous avez vu, Guylaine, le film « Entre les murs » de Laurent Canté. Mmh. Vous l'avez vu, hein.
Oui.
Il a bluffé, à mon avis, le jury de Cannes, au point qu'on lui a décerné le Grand Prix. Est-ce que vous l'avez aimé, ce film ?
Oui, je l'ai aimé.
Ah, vous l'avez aimé.
Mais
c'est bien, c'est bien.
Vous, non, je crois.
Ah, non. Moi, je trouve... Alors, on a admiré, et je crois que c'était dans Télérama. Télérama disait admirer l'énergie, je cite, et la vitalité de ces jeunes gens, hein, qui sont en effervescence constante, hein. À mon avis, ce sont des petits sauvageons déchaînés, hein, qui n'ont plus de masque. Et le problème du maître, c'est justement de les avoir invités à aller dans cette voie. En fait, professeurs et élèves doivent porter chacun leur masque pour que le processus éducatif fonctionne bien. Mmh. Alors, je ne sais pas, je vous convaincrai pas sûrement, Guylaine.
Non, mais votre avis m'intéresse.
Mais
beaucoup.
Voilà, je crois que... il s'agit d'hypocrisie, qu'est-ce que ça veut dire hypocrisie ? Hypocrisie vient du grec hypocrites, qui veut dire acteur de théâtre, hein. Il s'agit d'un théâtre, mais arracher les masques, en l'occurrence, dans ce cas-là, est quand même très très dangereux. Alors, dans ces aspects moraux, le masque implique l'intégration des frustrations, la substitution par exemple du principe de réalité au principe de plaisir, hein, la domestication de ce que Freud appelle le « ça », hein, « s » en allemand, c'est-à-dire la zone pulsionnelle, ou bien l'intégration de ce que Jung appelle l'ombre, que nous verrons dans la prochaine émission, l'ombre, hein, l'ombre jungienne. Mais vous voyez, Guylaine, ce n'est pas parce que le mot de frustration a aujourd'hui des connotations négatives, hein, il n'a pas bonne presse chez nous, que la frustration n'est pas indispensable. Hein. Beaucoup de parents aujourd'hui veulent, et c'est à la mode ça, ils veulent une éducation qui ne soit pas punitive, hein, mais qui soit positive ou incitative. Hein. Par exemple, il y a une loi qui vient d'interdire la fessée. Alors, en fait, c'est maladroit de dire ça. Elle interdit les violences physiques imposées aux enfants. Voilà, là, elle a raison. Hein. Mais au nom d'une éducation positive, je ne sais pas, quand un enfant, par exemple, devient tout rouge, qu'il trépigne, qu'il fait son caprice, hein, est-ce que le parent doit se contenter de dire « Je constate que tu ne te contrôles pas ». Vous voyez, hein. Bon, ça me semble quand même... insuffisant, c'est de l'angélisme. Alors, la fessée, bien sûr, je ne suis pas pour la fessée systématique, mais une petite tape, par exemple, c'est l'exorcisme de cette folie qu'est la colère. Ira furor brevis, disait Sénèque. Hein. La colère est une brève folie. Hein. Bon, alors, voilà. Bon, mais bien entendu, il ne faut pas le généraliser, soyons prudents. Hein. Mais, vous savez, cette éducation, on en parlait aussi à propos de l'écologie. Ségolène Royal voulait une écologie qui ne soit pas punitive, mais qu'elle soit incitative ou positive. Est-ce qu'on peut, comment dire, se passer totalement de la sanction ? Vous voyez ? C'est là que le problème. Moi, je pense que non, hein, parce que si l'enfant, il a le droit... qu'on lui notifie la limite. C'est un droit de l'enfant, qu'on lui dise jusqu'où il ne doit pas aller. Mmh. Quand l'enfant se révolte contre ses parents, il teste ses parents pour savoir jusqu'où il peut aller. Alors il a le droit que la limite lui soit notifiée. Et si dans cette fameuse éducation positive, qui ne punit pas, hein, qui ne sanctionne pas, on risque plus tard d'avoir des enfants qui sont des petits tyrans, hein, l'enfant roi, ou plutôt l'enfant tyran d'aujourd'hui, comme on le voit par exemple aux États-Unis d'Amérique. Hein. Donc la frustration, c'est pas toujours une mauvaise chose. Bon, souvent c'est une mauvaise chose, mais la frustration intégrée, elle suppose un sacrifice de l'immédiat, de la pulsion immédiate, au bénéfice d'une projection dans le futur, d'une anticipation. Et c'est par cette projection mentale dans le futur qu'on pourrait définir l'essentiel même du processus de culture, comme je l'ai développé dans un autre livre paru chez BOD, chez le même éditeur que celui-ci, qui s'appelle « La culture générale expliquée », le sous-titre « Les clés pour comprendre », hein, Dans tout mon premier chapitre, je parle de l'intégration nécessaire des frustrations. Donc, au bénéfice de quelque chose de positif qui doit nous arriver plus tard, on est capable de s'imposer une frustration. Par exemple, s'il fait beau dehors, j'ai envie d'aller me promener, hein, mais si je décide de rester chez moi pour travailler, pour réussir un examen, par exemple, je sacrifie un bien immédiat au bénéfice d'un bien escompté pour l'avenir. Hein. Et donc, la frustration, elle existe, c'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice positif. Donc, je crois que toute civilisation est perspective, disait Paul Valéry, c'est-à-dire penser du futur, hein, on anticipe, et au nom d'un bien espéré pour l'avenir, on peut dire non à une envie immédiate. Moi, je crois que c'est facile à comprendre, hein, et toute culture peut ainsi se définir. Vous connaissez, Guylaine, le fameux conte des trois petits cochons. Vous connaissez ça, hein? Bon, il a bercé nos enfances, hein, les trois petits cochons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les deux premiers cochons, qui ont folâtré, gambadé dans la prairie, hein, ils n'ont pas eu le temps de construire une maison solide. Mais le troisième cochon, lui, n'a pas folâtré, il a construit une maison solide. Alors est venu le loup, et le loup a soufflé sur les maisons des deux premiers cochons, il les a détruites, ces maisons, et il a dévoré les deux premiers cochons. Et ensuite, il a essayé de souffler sur celle du troisième cochon, mais comme elle était solide, elle n'était pas en paille ou je ne sais pas comment, mais elle était vraiment solide, alors le troisième cochon n'a pas été dévoré. Entendez qu'il n'a pas été submergé par ses pulsions, par sa zone pulsionnelle. Le loup, c'est cela, la métaphore. Hein. Alors je sais bien qu'une version édulcorée ou anesthésiante du conte nous dit que les deux premiers cochons se réfugient...
C'est ce que je connais, en tout cas.
Oui. Alors, moi, je trouve que c'est un peu naïf, hein, d'avoir... l'enfant, de toutes les façons, il s'identifie avec un des protagonistes du conte. Hein. Bon, alors, avec qui il va s'identifier? Alors, il ne s'identifiera pas avec le loup, par exemple, ça serait un pervers, un enfant pervers. Il va s'identifier avec le troisième cochon. Que les deux premiers aient été engloutis dans le ventre du loup, ça gêne pas beaucoup, enfin, je sais pas. Hein. De toute façon, cette morale, la morale de ce conte, est beaucoup plus, comment dire, positive et gratifiante pour l'enfant que, par exemple, la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Parce que lorsque la cigale qui a chanté tout l'été va crier famine devant la fourmi, sa voisine, etc. La fourmi lui dit, que faisiez-vous au temps chaud, hein? Je chantais, dit la cigale, vous chantiez, j'en suis fortaise, et bien dansez maintenant. Donc non seulement la fourmi, qui n'est pas prêteuse, non seulement la fourmi refuse l'aide que la cigale lui demande, mais ensuite elle la raille, elle se moque d'elle, vous voyez. Donc ça, c'est tragique, hein, c'est tragique. Hein.
Il est perdu.
Voilà. Donc, la pauvre cigale est perdue. Alors, et cette morale, on se demande si la moralité est convenable, parce que si l'enfant dit, il faut être comme la fourmi, c'est-à-dire ne pas aider celui qui est dans la peine, dans le besoin, ça serait grave, à mon avis. Le rôle de l'instituteur, par exemple, de l'enseignant, c'est de dénoncer l'égoïsme ou l'égocentrisme plutôt de la fourmi. Mais en tout cas, cette fable de La Fontaine est tragique, hein. Alors que l'histoire des trois petits cochons, elle ne l'est pas. Hein. Donc l'enfant apprend quoi? Il apprend qu'il faut savoir sacrifier ses pulsions immédiates, hein, au bénéfice, justement, d'un progrès pour l'avenir. Hein. Le troisième cochon n'a pas été dévoré, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas submersible dans le gouffre des instincts. Freud disait, là où est le ça doit advenir le moi. Là où est l'instinct doit advenir le moi structuré, hein, et qui se modèle d'après le système du surmoi, hein, voilà, des valeurs sociales. Donc ce domptage ou cette domestication, finalement, est une bonne chose. Donc vous voyez que le masque, hein, incarne une attitude et une philosophie qui n'est pas complètement à récuser. Hein. Alors il s'intègre progressivement au fur et à mesure qu'on avance dans la vie d'adulte. Hein. Alors, pour répondre directement à votre question, est-ce qu'on peut enlever le masque? Il y a deux types de personnes qui ne l'ont pas, le masque. Les petits enfants, parce qu'ils ne l'ont pas encore, hein, et les vieillards, ou les vieilles personnes parce qu'elles ne l'ont plus. Hein. C'est pour ça que les petits-enfants et les vieilles personnes s'entendent très bien, si vous voulez. Elles communient tous les deux dans un même refus de l'apparence sociale et des codes collectifs. Hein. Mmh. Mais entre l'enfance et la vieillesse, le masque triomphe. Vous voyez, je pense que rien n'est simple. Hein. Il ne faut pas être manichéen. Non, le masque, on en a besoin. Alors là, j'en viens justement à votre objection directement. La sagesse, c'est de ne pas se confondre avec le masque que l'on porte. Hein. Montaigne disait, c'est assez de s'enfariner le visage sans pour autant s'enfariner le cœur. Donc Montaigne était maire de Bordeaux, hein, mais il disait à propos de lui, le maire et Montaigne ont toujours été deux d'une séparation bien claire. Hein.
Donc Montaigne savait quand il devenait maire.
Voilà, hein. Et une fois qu'il avait quitté sa mairie, par exemple, il se réfugiait pour se retrouver hein, dans ce qu'il appelait sa librairie. Alors à l'époque, au XVIe siècle, la librairie c'est sa bibliothèque. Il avait une bibliothèque hein, où il était entre ses livres et les inscriptions gravées sur les poutres, les inscriptions des sages de l'Antiquité, et la librairie lui permettait de se retrouver face à lui-même, en autarcie, c'est-à-dire en autosuffisance et en méditation. Donc il faudrait toujours sagement abandonner le masque une fois que l'on a sacrifié aux devoirs sociaux. Comme l'éducation des enfants, c'est le masque parental, je pense que les parents ne peuvent pas, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'éducation positive et non punitive, hein, ne peuvent pas laisser tomber leur masque. Hein. Le métier exercé aussi, le masque professionnel, bon, une fois que l'on a sacrifié à ça, par exemple quand on est à la retraite, si vous voulez, hein, il faudrait savoir se retirer loin de cela. En Inde, le dharma ne vaut que quand que le dharma, les convenances sociales, ne valent que pour une époque de la vie. Une fois que l'on a sacrifié aux devoirs sociaux, il est d'usage de se retirer loin de ses obligations, une fois qu'elles ont été remplies, par exemple dans un monastère, etc. En Occident aussi, au XVIIe siècle, on se retirait à la fin de sa vie, comme on disait, au désert. Hein. Alors, il est vrai que c'était pour se préparer à la mort, mais enfin, il s'agissait de faire une retraite, elle ne fait pas peur. Et aujourd'hui encore, elle peut faire peur à certains retraités, parce que l'expérience que font certains retraités actuels, qui ne se sont pas doutés de ce que cet abandon du masque impliquait, qui ne s'y sont pas préparés et qui ne se consolent pas de ne plus porter leur masque professionnel, c'est quelque chose d'assez tragique, si vous voulez. Hein. Ils vivent leur retraite comme une mort sociale.
C'est comme si lorsqu'ils portaient le masque...
C'était eux-mêmes. Ils se confondaient avec leur masque. Alors on voit que l'aliénation qui pousse à se confondre avec le métier qu'on exerce et à ne plus se sentir vivre dès qu'on l'a quitté, qui est très fréquente, est quelque chose dont il faudrait se déprendre. Hein. Et beaucoup de sages et de moralistes ont indiqué... la nécessité hein, de relativiser le masque social. Voici une phrase de Montaigne qui est dans un langage un peu cru, mais je cite le texte. Hein. « Aussi avons-nous beau monter sur des échasses, encore nous faut-il marcher de nos jambes. Et au plus élevé trône du monde, encore ne sommes-nous assis que sur notre cul. » Vous voyez, hein. Montaigne écrit comme ça. Hein. Bon, et Pascal aussi, quand il critiquait ce qu'il appelait les grandeurs d'établissement, montrait le danger qu'il y a à se confondre avec le masque. Qu'est-ce autre chose, disait Pascal, que d'avoir un rang élevé dans la société, sinon d'avoir autour de soi une cour empressée qui nous empêche de songer à nous-mêmes. Hein. Mais si on enlève aujourd'hui, par exemple, à un ministre, la foule de ses courtisans, ou même simplement son chauffeur personnel, ou bien ses gardes du corps, ou bien son escorte de motards, par exemple, alors on le verra nu et désemparé, hein, cet homme. Donc on croit servir de hauts intérêts, en fait on ne sert que son propre narcissisme.
Son petit égo.
Son petit égo.
Merci Michel, à la semaine prochaine.
Voilà, au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.